Troisième moment dans l'évangile de saint Jean, c'est l'entretien avec Nicodème. Vous voyez bien comment les choses se succèdent profondément. Hein. C'est qu'il y a d'abord et en premier lieu les noces de Cana, puis Jésus qui chasse les vendeurs du temple, et troisièmement Nicodème. Alors on essaiera de comprendre la signification de ces trois moments ensuite. Alors c'est quelque chose que nous devons aimer beaucoup au point de vue théologique. Hein. C'est la mesure de la théologie. Et c'est en même temps le fondement que la théologie est nécessaire, parce que Jésus nous en donne le modèle. Face à un docteur de la loi, Jésus est théologien. Comme face à la Samaritaine, Jésus parle d'une manière différente. Et c'est évident que ces deux dialogues sont comme deux extrêmes, puisque Nicodème, c'est, comme nous allons le voir, quelqu'un de très bien, socialement. Et que la Samaritaine, c'est quelqu'un de très bien aussi, puisque Jésus lui donne l'eau vive, mais que socialement, elle n'est pas tout à fait au même niveau que Nicodème. Elle est samaritaine, un peu à côté. La sœur séparée. Et puis, elle a mené une drôle de vie. Parce qu'elle a eu 5 maris. Et que ce n'était pas la coutume. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez net. Réduite à la corvée d'eau en plein midi, tandis que Nicodème est tout à fait libre, lui, il vient le soir, après toute sa journée. Il est libre le soir. On voit très bien, et ce serait très intéressant, si on veut étudier la manière dont Jésus découvre le cœur de l'homme. Parce que c'est ça qui m'intéresse dans l'Évangile. Jésus nous donne une pédagogie divine pour découvrir le cœur de l'homme. Ce n'est pas une pédagogie humaine, c'est une pédagogie divine. Arriver à enlever, voyez, tout ce que nous portons, hein, nous en portons des cataplasmes successifs qui font que nous nous défendons le plus possible pour que notre cœur ne soit pas ouvert à tout le monde. Hein. L'opération à cœur ouvert. Hein. C'est ça. La grâce réclame ça. Comment impossible? Impossible d'être purifié, d'être dépouillé de ce que nous sommes. Or, nous avons, hein, chacun d'entre nous, des défenses successives, hein, qui empêchent la grâce de passer. Parce que nous sommes contents de nous-mêmes. On joue son personnage. Non, on joue tous un personnage. Il faut bien que voulez-vous, on vit en communauté. C'est évident. Donc on joue un personnage. Et si on était ermite, on jouerait encore un personnage. Alors c'est évident. Un autre, c'est pas le même, pas du tout. Mais il y aurait un autre personnage. Et chacun d'entre nous, nous joue un certain personnage, c'est sûr. Il n'y a qu'en face de Dieu qu'on peut être totalement vrai. La nudité avant le péché se faisait spontanément. Après le péché, c'est terriblement difficile. Et pour chacun d'entre nous, nous avons les trois couches des conséquences du péché qui sont fameuses. Et en plus de ça, tout notre psychisme complexe qui est celui d'un pécheur, qui est encore très fameux. Et tout ça, ce sont des défenses. C'est extraordinaire. Le vivant est un être qui prend sur lui-même pour mettre justement cette espèce d'auto-défense. Et on comprend très bien, il n'y a qu'en face de Dieu qu'on peut être absolument vrai. Il n'y a qu'en face de Dieu. En face de Dieu, on peut être absolument vrai. On peut en avoir le désir. Et Dieu nous voit tel que nous sommes. Et nous avons le désir d'être comme ça en face de Dieu. mais en face des êtres humains, impossible. Jamais possible. Alors, Jésus est Dieu. Et Jésus aime qu'on soit en face de lui, dans cette espèce de nudité qui fait qu'on soit vrai. Alors c'est ça qui me semble très important, parce qu'au fond, c'est bien cela que Dieu cherche pour communiquer la grâce. C'est la puissance obédientielle, comme diraient les théologiens. Qu'est-ce que c'est que cette puissance obédientielle? Vous comprenez très bien, toutes nos autodéfenses ne sont pas la puissance obédientielle. C'est nous. Nous sécrétons des carapaces. Nous sécrétons des choses qui font que nous sommes une forteresse très fortifiée. Et il faut que tout ça disparaisse pour que la grâce puisse nous être communiquée. Dieu, évidemment, n'en a pas besoin, c'est évident, c'est sûr. Mais ordinairement, Dieu réclame cette espèce de pauvreté, parce qu'en fond, c'est ça la pauvreté, revenir à une nudité en face de Dieu. Il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Vous voyez, on souligne la noblesse de Nicodème. C'est un homme très bien, très très bien. Et il a conscience de l'être. Ce qui est du reste normal, puisqu'il est pharisien. Ordinairement, les pharisiens ont assez bien conscience de ce qu'ils sont. Certains avec exagération, d'autres nettement. Celui-ci vient vers Jésus de nuit. Alors, on souligne la circonstance, pour pouvoir parler plus librement avec Jésus, et puis comme c'est un notable, que c'est un homme qui a de grosses responsabilités, il n'a pas le droit de commettre un acte d'imprudence. Dès qu'on a une autorité, on doit avoir une prudence qui fait qu'on n'agit plus tout à fait de la même manière. Ça ne peut pas être autrement. Parce que forcément, on est responsable de ceux qui viennent derrière. Si on a une autorité, c'est comme ça. Tandis que si on est un loup, on est un loup. Alors on est seul engagé dans l'histoire. Et c'est très vrai que ce n'est pas du tout la même chose. Il y a deux choses très très différentes. Quand on est seul, un loup, et puis dès qu'on a une responsabilité, dès qu'il y a une communauté derrière, on doit faire attention. Celui-ci vient vers Jésus de nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu en docteur. » C'est très fort. C'est de la part de Dieu, donc, que tu enseignes, que tu as la capacité d'enseigner, que tu es venu en docteur. C'est Jésus qui enseigne. Vous voyez, c'est la première reconnaissance qu'on fait de Jésus. La première reconnaissance que le peuple d'Israël fait de Jésus. Parce que Nicodème, c'est quand même un docteur en Israël. C'est quelque chose de grand. Et la première chose qu'on reconnaît de Jésus, c'est qu'il est venu en docteur, de la part de Dieu. Parce que si on vient enseigner la vérité, on ne peut le faire que de la part de Dieu. Celui qui cherche la vérité, c'est toujours de la part de Dieu. Personne, en effet, ne peut faire ces signes que tu fais. Tu viens en docteur et puis tu fais des signes, les miracles. Les miracles faits à Cana, les miracles faits à Capharnaüm. Personne, en effet, ne peut faire ces signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et puis les signes que Jésus fait à Jérusalem, comme il l'a dit précédemment. Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, personne, à moins de naître d'en haut, ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors là, c'est là où on voit le regard de pénétration du Christ. Jean a signalé qu'il n'avait besoin qu'on témoignât au sujet de personne, car il connaissait, lui, ce qu'il y a dans l'homme. Jésus connaît ce qu'il y a dans le cœur de Nicodème. Ça nous est dit. Jésus, c'est l'obstacle qui empêche Nicodème d'aller plus loin. C'est la seule chose qui intéresse Jésus. C'est que nous allions jusqu'au bout de l'exigence de lumière et de sainteté. C'est la seule chose qui intéresse Jésus. Le reste, ça ne l'intéresse pas. C'est secondaire. Alors, il sait très bien qu'il y a un obstacle dans le cœur de Nicodème. Nicodème est content de lui-même. Cette autosatisfaction. Nicodème est bien né. Il est de la race d'Abraham. S'il est de la race d'Abraham, il est donc un élu. Il est sauvé. Il est de la race d'Abraham. Et Jésus montre à Nicodème ce que Nicodème oubliait. Personne, à moins de naître dans, ne peut voir le royaume de Dieu. C'est rude pour Nicodème. Hein? Nicodème, qui en raison de tout le milieu dans lequel il est, il est pharisien, il est docteur en Israël, donc il est absolument sûr qu'étant bien né de la race d'Abraham, il est sauvé. Il fait partie du royaume de Dieu. Il a oublié ce qui nous est dit, qu'Abraham, il est justifié à cause de sa foi. C'est la foi qui justifie. C'est pas être né d'Abraham. Être né d'Abraham ne peut être que de l'ordre des dispositions. Et ce n'est pas cela qui justifie. Ce qui justifie, c'est la foi personnelle de chacun. La foi ne se transmet pas de père en fils. Si vous avez un grand-père qui est un saint, vous avez sans doute des dispositions. N'est-ce pas ? C'est très vrai. Mais ce n'est pas sa sainteté dont vous avez hérédité. Ça serait trop commode. Hein ? Quand on a des saints dans sa maison, parmi ses ancêtres, alors ça y est, je suis sûr, moi maintenant, ça peut être aussi un danger, hein, parce qu'on se repose sur les lauriers de son grand-père, et à ce moment-là, ça ne va pas très bien, parce que la sainteté est toujours une chose personnelle, et chacun d'entre nous, on doit l'acquérir. Et c'est très très fort, en vérité, amen, amen. Nous y reviendrons hein, sur ce que saint Jean souligne, du reste les synoptiques aussi soulignent, que Jésus ne dit pas qu'il parle de la part de Dieu. Il parle avec autorité. Et c'est pour ça qu'il dit « Amen, Amen ». Jamais un prophète ne dit ça. Et nous n'avons pas à dire ça, nous. C'est Jésus seul qui peut dire ça. « Amen, Amen ». En vérité, je te le dis. Personne, à moins de naître d'en haut, ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, voir le royaume de Dieu, entrer dans le royaume de Dieu, faire partie du royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui nous est donné selon la race, selon le point de vue psychologique. Saint Jean l'a dit d'une manière merveilleuse dans son prologue, hein. À ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Alors il y a les trois négations que saint Jean rassemble, donc le prologue de saint Jean, verset 13. Qui ne sont pas nés du sang, c'est l'atavisme, d'un vouloir de chair, c'est tout le psychisme, et d'un vouloir d'homme, c'est notre volonté humaine. La grâce est au-delà de ces trois niveaux. Je n'atteindrai jamais la grâce au niveau purement de l'atavisme. Je n'atteindrai jamais la grâce au niveau purement psychologique. Je n'atteindrai jamais la grâce uniquement au niveau du vouloir d'homme, donc au niveau philosophique. La grâce est au-delà. Elle est quelque chose qui vient de Dieu, directement. Et c'est pour ça que Jésus souligne, personne à moins de naître d'en haut, ne peut voir le royaume de Dieu. voir le royaume de Dieu, entrer dans le royaume de Dieu, faire partie du royaume de Dieu, être sanctifié. Je crois que c'est vraiment ça, faire partie du royaume de Dieu, être sanctifié. Nicodème ne s'attendait pas à cela. Ça, c'est évident. Quand on salue quelqu'un avec gravité, on attend que l'autre personne nous salue avec gravité. Nicodème s'attendait à ce que Jésus le reconnaisse comme un docteur en Israël. C'est merveilleux, tu viens me voir, c'est beau, c'est très beau ce que tu fais comme geste, c'est grand. Jésus ne dit rien du tout. Comme adaptation, c'est remarquable. C'est quelque chose de direct. Ça, c'est la hâte de Jésus. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Mais nous devons le regarder dans le Christ. Nous devons regarder cette hâte de Jésus que saint Jean nous montre. C'est-à-dire, oh, mais Jean résume. Il résume, c'est évident. Mais c'est le Saint-Esprit qui résume pour lui. Alors c'est bien résumé. Donc, il nous donne l'essentiel, ce que nous devons regarder comme modèle. Et il nous montre cette hâte que Jésus regarde tout de suite ce qui, dans Nicodème, demande d'être rectifié. Pour que Nicodème puisse avancer plus loin et reconnaître qui il est. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Alors ça, c'est la réflexion première de Nicodème. Je crois que c'est la réflexion première d'un intellectuel qui est dépassé. Un intellectuel n'aime jamais beaucoup d'être dépassé. L'intelligence a un développement dans l'immanence. On aime bien découvrir soi-même, mais qu'un autre plus jeune, Jésus est beaucoup plus jeune que Nicodème. Nicodème avait peut-être entendu Jésus quand il avait 12 ans. C'est très possible. C'est très, très possible. Il n'y a rien qui nous dit que Jésus... Ça peut rester par mode d'hypothèse. Mais sûrement qu'il y a une grande différence d'âge entre Nicodème et Jésus. Alors, Nicodème est dépassé par Jésus. Il a eu salué pour reconnaître qu'il était un docteur et qu'il était digne d'entrer dans sa corporation. Ça, c'était très bien. Mais qu'il soit dépassé par Jésus, que Jésus passe devant et que Jésus lui enseigne. Quand Jésus avait 12 ans, très très bien, il enseignait par mode d'interrogation. Mais enseigner de cette manière, amen, amen. Quelque chose de net, ça. Donc, c'est dire, voilà la vérité. Et voilà ce que tu as besoin de recevoir immédiatement. Parce que Jésus a dû le dire avec une certaine force, beaucoup de douceur, mais une certaine force. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Donc, il ne comprend pas. Alors, il y a un peu d'ironie. L'ironie, ça sauve. C'est très important, l'ironie. C'est une manière, vous voyez, de lever les ponts dans un dialogue, vous savez. Il vaut mieux pas trop continuer ce dialogue. Alors, un peu d'ironie, c'est on lève les ponts de vie, puis on jette un peu de poids. C'est un peu comme ça, vous voyez. Alors, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Mais tu dis une chose, non, vraiment. Ne dis pas ça. Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et renaître? Évidemment, Jésus n'a pas l'expérience de la vieillesse. Nicodème a une supériorité sur Jésus, oui, il s'est rattrapé de cette manière-là, n'est-ce pas? C'est qu'il a l'expérience de la vieillesse. Et donc, il y a quelque chose, c'est très curieux, on cherche toujours à trouver un point sous lequel on dépasse Jésus. La Samaritaine fait exactement la même chose, elle, c'est la cruche, tandis que Nicodème, c'est la vieillesse. C'est extraordinaire, ça. Un point sous lequel Jésus n'a pas ça. Et il se rattrape de cette manière. On fait ça dans l'ironie. Instinctivement, on voit sa petite supériorité sur l'autre. Et alors, on se rattrape. C'est une manière très élégante, merveilleuse. C'est un homme très intelligent, Nicodème. C'est très intelligent de dire ça en face de Jésus, qui vient de dire, il faut naître d'en haut. Absolument nécessaire. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et renaître? Ce n'est pas une réponse de foi, c'est une réponse philosophique. Alors, quand on dit qu'il n'y a pas de philosophie dans l'écriture, il y en a, à titre d'ironie. philosophe, l'ironie de Socrate. Hein. L'ironie ici, c'est très, très, très étonnant. L'ironie d'un théologien qui ne veut pas s'avouer vaincu sur son propre terrain. Sur d'autres terrains, ça va. Mais sur son propre terrain, non. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. C'est extraordinaire, ça. Jésus reprend et réaffirme avec la même force, mais avec un peu plus de précision. Mais il réaffirme, et c'est important, ça, parce que ça montre bien que Jésus n'est pas du tout d'accord avec cette ironie. Dépasse-la, c'est encore toi. C'est encore ton intelligence. Il fait la roue. Vous savez, c'est ça, l'ironie. On fait la roue. On voit toutes les choses merveilleuses. Mais c'est soi-même. En vérité, je te le dis, personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc Jésus réaffirme. Très grande miséricorde. Il réaffirme pour pouvoir montrer l'erreur de Nicodème. Et c'est ici où je vois Jésus théologien. Pour corriger Nicodème. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà la grosse confusion de Nicodème. C'est de confondre la naissance qui est selon la chair et la naissance qui est selon l'esprit. C'est de confondre ces deux nativités. Il croyait que comme descendant d'Abraham, il avait droit au royaume de Dieu. Et Jésus lui montre que non. Ce qui est né de la chair est chair, même quand c'est de la chair d'Abraham. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est deux choses différentes. Donc Jésus distingue. La théologie, c'est quand on distingue. C'est le propre du théologien de distinguer. La foi ne fait pas ça, la foi adhère. C'est le propre de la foi, c'est d'adhérer. Le propre de la foi, c'est d'adhérer, de contempler. Dès qu'intervient la distinction, c'est l'œuvre de l'intelligence. L'intelligence, dans ce qu'elle a de plus profond, c'est de distinguer. De distinguer parce qu'on fait une confusion. La confusion n'est pas de l'ordre de la foi. Il faut libérer la foi. Et libérer la foi de ces confusions. Des confusions qui ne viennent pas de la foi, mais qui viennent de l'homme. Qui viennent de l'homme pas assez intelligent. Parce que toutes les confusions, c'est un manque d'intelligence, hein. Et nous en faisons tout le temps des confusions, parce que c'est difficile hein, d'être au niveau de la foi. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Jésus a vu l'étonnement. Cet étonnement qui l'a conduit à l'ironie, pour se cacher, pour ne pas avouer qu'il ne comprenait pas. Et alors Jésus s'approche de lui. Et Jésus va se servir d'une analogie. Distinction, analogie, c'est toute la théologie. Pas d'autre chose en théologie. Et alors c'est intéressant de voir que, de fait, ce sont les deux aspects que Jésus prend en face de Nicodème. Mais je crois que c'est très important pour nous, ça, vous voyez. Parce que la théologie aujourd'hui, on sait très bien qu'elle bat d'une aile. Pour ne pas dire qu'elle pique au sol, n'est-ce pas? Alors, elle bat nettement d'une aile, n'est-ce pas? C'est vu. À travers Saint-Thomas, c'est évident, Saint-Irénée. Mais on la reprend à la source. Et la reprendre à la source, c'est découvrir comment qui caractérise la connaissance théologique. Qu'est-ce qui caractérise la connaissance théologique? C'est que l'intelligence qui distingue soit au service de la foi. C'est l'intelligence qui est capable de comparaison, d'analogie, et s'en servir pour la foi. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. L'étonnement comme le scandale. C'est ni bon ni mauvais. Tout dépend de ce que vous en faites. Si vous vous étonnez pour vous replier sur vous-même, si vous êtes scandalisé, vous vous servez du scandale pour vous replier sur vous-même, à ce moment-là, vous n'avancez plus. Et le scandale peut conduire à la révolte. Et le scandale peut conduire à cette attitude de celui qui se repliant sur lui-même, ne veut plus avancer. Alors que l'étonnement et le scandale doivent normalement nous ouvrir et reconnaître que nous avons besoin d'aller plus loin. Ne t'étonne pas si je t'ai dit « il vous faut naître d'en haut ». Le vent souffle où il veut et sa voix, tu l'entends. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Vous voyez la situation de celui qui entend la voix du vent et qui ne sait pas d'où vient le vent. Vous êtes au désert, vous entendez la voix du vent. Il y a un ciel magnifique, il n'y a pas de nuage. Quand il y a un nuage, on regarde, tu me dis, ça y est, rien du tout. Tu ne sais ni où il va, ni d'où il vient, ni où il va. Et tu entends la voix du vent. Tel est celui qui est né de l'esprit. Vous voyez, la situation analogue. La situation semblable, analogue. Quand on est né de l'esprit, on est dans la situation de celui qui doit accepter de ne pas savoir d'où il vient et où il va. Pas commode pour des gens qui ont l'habitude de savoir d'où ils viennent et où ils vont. D'où ils viennent, je suis fils d'un tel, je suis petit-fils d'un autre, je suis... et ainsi de suite. Vous voyez, je sais d'où ça vient. Bonne race. Et je sais à peu près où je vais. Oui, je sais. Un théologien, quand il raisonne, il sait d'où il vient et où il va. Eh bien, le croyant doit accepter de ne plus savoir d'où il vient et où il va. Vous voyez, la purification de l'intelligence, la pauvreté de l'intelligence, accepter d'être suspendu à la voix de l'esprit. Et c'est ça qui est d'autant plus beau, c'est que dans Saint Jean, la voix, c'est toujours le symbolisme de l'Esprit Saint. La voix, c'est le souffle. C'est le souffle, c'est le vent qui souffle, c'est la voix. Et alors, il faut être suspendu à la voix de l'esprit, au souffle de l'esprit, sans savoir d'où il vient et où il va. Vous voyez, la pauvreté du croyant, c'est d'être celui qui, justement, est dans cette situation, c'est vraiment être dans cette situation de celui qui est au désert. Un croyant est toujours au désert. Il doit accepter d'être au désert. Autrement, c'est quelque chose qui l'empêche d'être dans la pureté de sa foi. Il doit accepter d'être au désert et d'être suspendu à la voix de l'esprit, dépendant de la voix de l'esprit. Alors on va dire, oh, mais ça c'est l'attitude mystique. Non, c'est l'attitude du croyant. Jésus dit ça à Nicodème, hein. C'est assez extraordinaire. C'est très vrai que c'est l'attitude du mystique, mais c'est l'attitude du croyant qui doit aller jusque-là. Si vous n'allez pas jusque-là, mais non, vous ne vivez pas de la foi. La foi réclame de couper tout ce qui vous lie au passé, au futur. Et vous vivez d'éternité. Et directement, vous vivez d'éternité, la foi nous fait vivre la vie éternelle. Et donc on est rattaché directement à quelque chose qui est l'absolu, vous voyez, la verticale, hein, qui fait que directement on est lié à celui qui nous appelle. C'est l'attraction du Père par l'Esprit Saint, quand on dit « Abba Pater ». C'est exactement ça. On n'a plus aucun lieu qui nous rattache au passé, au futur. Sur la terre, on est uniquement suspendu, attiré par le Père. Le vent souffle où il veut, et sa voix, tu l'entends, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Oui, distinction, analogie. Et vous avez tout. Enfin, vous avez compris ça, vous avez compris ce que c'était que la théologie. Ce qu'il faut, c'est bien l'employer, hein, à la suite de Jésus, de bien voir quand il y a une confusion, dire attention, il y a une confusion. Un discernement. Et le glaive, hein, montre bien ce qu'il faut séparer et de ce qu'il faut unir. La tactique du démon, c'est toujours l'inverse, hein. Le démon veut toujours unir ce que l'Esprit Saint sépare, et le démon veut séparer ce que l'Esprit Saint unit. Il ne faut jamais l'oublier, hein, parce qu'il est anti-Esprit Saint en tant qu'adversaire. Nicodème répondit et lui dit, comment cela peut-il se faire? Voilà, Nicodème est devenu un enfant. C'est le commodo de l'enfant. C'est le commodo de l'Annonciation, vous voyez. Mais Marie l'avait dit tout de suite. Nicodème a eu un petit moment d'ironie. Heureusement pour nous, heureusement pour les intellectuels, il y a un petit moment d'ironie où il s'est réfugié dans sa propre réflexion. Et sa propre réflexion lui a donné la possibilité d'être vaincu. Il a compris qu'il faisait une grosse confusion, qu'il n'était pas assez intelligent, qu'il n'était pas toutes ses expériences au service de la foi. Comment cela peut-il se faire? Alors, dès qu'on est humble, Jésus nous humilie. C'est pour ça qu'on a très peur de s'humilier et de reconnaître. C'est extraordinaire. Dès qu'on accepte le premier pas de reconnaître, mais oui, c'est vrai. Dès qu'on accepte le premier pas, comment cela peut-il se faire? Jésus répondit et lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas cela. C'est dur à porter. Parce qu'un docteur, normalement, c'est celui qui sait. Hein. La plus grande humiliation pour un docteur, c'est de lui dire qu'il ne connaît pas ce qu'il devrait connaître. C'est la plus grande humiliation. Tu es le docteur d'Israël. Le docteur d'Israël. Jésus le prend, hein, dans ce qu'il aime le plus. Tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas cela. En vérité, je te le dis, c'est de ce que nous savons que nous parlons et de ce que nous avons vu que nous témoignons. Et notre témoignage, vous ne le recevez pas. Vous voyez, Jésus s'est servi de cette bonne volonté de Nicodème. Cette bonne volonté de Nicodème, hein, aux hommes de bonne volonté. Dès qu'on est dans une attitude de bonne volonté, l'Esprit Saint peut prendre possession de notre cœur. Et la bonne volonté de cet homme, qui est docteur en Israël, c'est de poser la question, comment cela peut-il se faire? D'avouer son incompétence. D'avouer qu'il ne voit pas, qu'il ne sait pas. Et alors, immédiatement, Jésus se sert de ça pour aller plus loin. Il y a une brèche qui se fait. Ça, c'est très beau. Jésus va entrer plus à fond dans le cœur de Nicodème. Et il entre plus à fond dans le cœur de Nicodème en l'humiliant. C'est pas seulement Nicodème, hein. C'est Nicodème avec toute la caste des théologiens et des docteurs d'Israël. Et c'est très beau, ça. C'est très, très beau. C'est même très étonnant. Nicodème a fait une démarche personnelle. Et Jésus le remet dans son milieu. Parce que nous ne pouvons pas nous sauver sans porter tous ceux dont nous sommes responsables. Et Nicodème, docteur en Israël, ne peut pas se sauver tout seul. Il doit reconnaître qu'il est docteur en Israël. Et donc, il doit accepter de porter ce que les autres n'ont pas accepté. Parce que c'est ça qu'il pourrait dire. Amen, amen, je te le dis. C'est de ce que nous savons que nous parlons et de ce que nous avons vu que nous témoignons. Et notre témoignage, vous ne le recevez pas. Quand Nicodème est avec tous les autres docteurs en Israël, il est comme les autres. Et quand Nicodème est seul, il y a un peu de bonne volonté. Ce n'est pas suffisant. Il faut que ça aille plus loin. Il faut que cette bonne volonté puisse se témoigner même en face des anges. Il vient de nuit. Je crois que là, nous avons peut-être la petite clé de ça. Il vient de nuit. Il ne se compromet pas. En face des autres, il était avec les autres. Dans le fond de sa conscience, il y avait quelque chose qui commençait à bouger. Alors, ce quelque chose qui est bon, qui est sa bonne volonté, Jésus veut que ça prenne tout. Et qu'alors, à ce moment-là, il soit capable de dépasser un tout petit peu ce qu'il n'était capable que de porter seul. Il faut qu'il puisse le porter en tant que représentant des docteurs en Israël. C'est très important ça, je crois, pour notre propre conversion. Hein. Parce que c'est ça la conversion chrétienne. Hein. C'est pas seulement individuellement, mais c'est tous les autres que nous portons. Et nous les portons tous, et nous devons tous les porter. Et Nicodème doit, et c'est l'exigence que Jésus réclame de Nicodème. Nicodème doit accepter cela, et ce n'est qu'au moment où Nicodème va accepter ça que Jésus pourra le faire entrer dans quelque chose de beaucoup plus grand. Ben, nous reviendrons sur ce passage, parce que là il y a quelque chose qui me semble très important. Le regard de Jésus sur Nicodème, pas seulement individuel, pris individuellement, mais Nicodème lié à la caste des docteurs.
Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.